I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Notre prochain invité est humoriste et pourtant derrière ses blagues se cache une expérience de vie très difficile et un traumatisme profond. Ce soir, elle va nous raconter comment elle a réussi à transcender ce vécu en faisant rire les autres. Merci d'applaudir très fort, Norma.
C'est pas trop, ça se trouve, ça va être nul. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Norma, je suis née le 12 novembre 91. Vous inquiétez pas, on va pas partir sur du Wikipédia, ça va être un peu plus cool quand même. Bref, je nais donc le 12 novembre 91 d'une maman solo, une maman qui a fait un enfant toute seule. Apparemment, et normalement, il faut être deux, mais la société a préféré dire qu'elle avait fait un enfant toute seule. Bref, donc on est toutes les deux dans notre duo. Au début, tout va plutôt bien. Elle est pleine d'amour, elle est pleine d'attention pour moi. C'est plutôt une très, très chouette mère. Il me manque quand même un père, mais bon, pour le début de ma vie, c'est pas trop embêtant. Et puis, j'arrive à l'école. Et là, je me confronte au fait que, en fait, pas avoir de père, c'est un peu relou. en fait, les autres, ils en ont et j'avoue, je suis un peu jalouse. Donc, du coup, bon, tant pis. La vie continue et puis vers mes 3 ans et demi, 4 ans, ma mère rencontre un homme extraordinaire. Secrètement, j'espère qu'il va être un peu mon père. Je veux pas l'effrayer, donc je suis hyper sympa. Et il finit par me dire qu'il a envie d'être, en tout cas, comme mon papa, qui remplacera jamais mon papa, mais qu'il a envie d'être comme mon papa. Donc là, la vie devient de plus en plus chouette. Ça y est, j'ai une mère, un père, je peux aller à l'école, je peux me la raconter un peu. Donc là, c'est cool. Et ça ne va aller que en étant encore plus chouette parce que il me fait rencontrer sa famille. Donc un dimanche, j'arrive dans une maison où ça sent très très bon, le poulet croustillant, où tout est très chouette. Sur le côté, il y a un grand-père, donc son père, qui coupe une haie. Il n'est pas hyper intéressant, mais je m'en fous, ça sent très très bon le poulet. Donc je m'avance vers l'odeur de nourriture, comme depuis 30 ans. Et du coup, je m'avance dans cette cuisine où je rencontre une grand-mère extraordinaire, pleine de bienveillance, que ce soit pour la confiture d'abricot qu'elle fait, pour comment elle parle aux autres enfants de la famille. Enfin, vraiment, je me dis... Je viens de choper un père, si je pouvais avoir une grand-mère, celle-là, elle a l'air chambée. Donc du coup, voilà, tout se passe à merveille. On va pour se mettre à manger. Au bout de la table, il y a une jeune fille qui a 2 ans de plus que moi. Donc à cette époque-là, elle a 5 ans, elle s'appelle Julie. Et elle, c'est la vraie petite fille. Donc je ne sais pas si elle va me les prêter. Clairement, je ne sais pas si elle va me prêter ses grands-parents. En tout cas, je la trouve trop chouette. Donc là, je fais le calcul dans ma tête, je me dis, alors attends, tu viens de récupérer un père, il y a moyen d'avoir des grands-parents, une cousine, tiens-toi bien. Donc le repas se poursuit, tout est très chouette, je suis vraiment prise d'une espèce de joie, ça y est, moi aussi j'ai la famille Fisher-Price, enfin il y a un truc qui commence à avoir un peu de la gueule. Donc je suis très 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 heureuse de cette journée. Et puis arrive la fin de la journée, et je me dis, mais imagine cette famille... n'a existé que 8 heures. Imagine, je ne les ai pas assez intéressés. Imagine, c'est pas ma famille et ça ne le sera jamais. Enfin, vraiment, je suis toute petite, mais je me rappelle que j'ai très, très peur que tout ce bonheur me soit enlevé aussi vite qu'il est arrivé là. Et on part et j'ai très, très envie de pleurer. Enfin, c'est hyper dur. Je vais vers la voiture avec ma mère et Julie, donc ma cousine qui ne l'est pas encore, arrive et me dit, au fait, est-ce que le week-end prochain, tu veux venir ? Bon, je ne sais pas si elle veut bien être ma cousine, mais en tout cas, elle veut bien que je sois là le week-end prochain. Et là, toute la semaine, il y a un truc assez fou, c'est-à-dire que c'est plus fort que si on m'avait dit d'aller Disney, à Disneyland, c'est plus fort que tout. On m'a dit, le week-end prochain, t'as une famille et ça va durer 2 jours. Donc, plutôt cool comme idée. Et donc, j'attends toute la semaine ce week-end. Et le week-end arrive, ma cousine est toujours aussi super chouette, elle me propose quand même de faire de la bouillie de lutin. Bon. Projet très très sympa quand t'as 3 ans et demi. Donc voilà, on passe toute la journée ensemble, on fait plein de trucs très chouettes. Tout est millimétré pour notre bonheur. Ma grand-mère est là, elle m'a acheté un pyjama hyper doux. Enfin, vraiment, tout est très doux, quoi. Il y a quelque chose de vraiment merveilleux. Et arrive le soir, donc on mange ensemble. Et puis, notre grand-mère nous fait des nattes à la perfection. Enfin, vraiment, tout est trop chouette. Et on va pour aller se coucher. Et il y a ce grand-père que je n'ai pas beaucoup vu, mais qui m'a quand même dit, je t'ai vu faire du vélo. Tu fais hyper bien du vélo. Avec du recul, la manipulation commençait à ce moment-là. Parce que vraiment, sur un vélo, c'est une catastrophe et ça l'a toujours été. Mais j'ai 3 ans et demi et j'ai pas vu le truc. Bref, donc il me dit que je fais hyper bien du vélo, que je suis hyper mignonne, qu'il est très content que je sois là, que j'ai beaucoup de chance qu'il m'ait ouvert la porte dans cette famille. Bref, et pour la deuxième fois de ma vie, un homme me dit que je suis super. Donc là, je commence à être là. Et on va se coucher et il me dit, surtout demain, s'il te plaît, viens me réveiller parce qu'il faut absolument que je nourrisse le chat. Donc, il faut vraiment que dès que le soleil se lève, tu viennes me réveiller. 3 ans et demi, on n'a jamais envie qu'un chat meure. Donc, je vais me coucher en me disant, écoute, tu as une famille extraordinaire, ils t'ont quand même pas demandé grand-chose, surtout n'oublie pas le chat. Donc je m'endors tout en me disant que quand même il ne faut pas que je me rate. Bon, le soleil se lève, je me dis là, il faut y aller. Je monte dans la maison, que je connais très peu à ce moment-là. Je vais dans la chambre de mon grand-père pour le réveiller. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais à ce moment-là, quand je rentre dans cette chambre, il y a quelque chose de terrible. Toute la maison est luxuriante, c'est-à-dire que toute la maison est magnifique, elle brille de 8000 couleurs, je vous dis Disneyland, quoi. Chambé. Et cette chambre me fait froid dans le dos, me fait peur, mais bon, je me dis que de toute façon, il faut donner à manger à ce chat et donc réveiller ce grand-père qui taillait ses... Donc je vais pour le réveiller. Il me dit que je suis mignonne, que je suis gentille, que je suis extraordinaire. Et là, l'enfant de 3 ans et demi, il ne peut que se remplir d'un amour masculin qu'il n'a jamais eu. Donc là, c'est un peu une petite fête, même si je n'aime pas cette chambre. Et puis, il commence à me dire que je pourrais faire ci, que je pourrais faire là, que quand même on pourrait s'embrasser. Et là, tout s'arrête. Là, tout s'arrête. Je me fais violer pour la première fois de ma vie. Et alors après, Disneyland, c'est moins chambé, je vous l'accorde. Mais bref, je me fais violer pour la première fois de ma vie. J'ai 3 ans et demi. Je ne me rappelle pas que je me fais violer. 20 ans d'analyse, une fortune mise dans un cabinet pour pouvoir vous dire cette phrase. Donc, je me fais violer. Et tout s'arrête. Je crois que je vais mourir. Je ne me rappelle de rien, si ce n'est que j'ai failli mourir. Et puis, il me dit, c'est bon, il faut que j'aille nourrir le chat. Tu es extraordinaire, merci beaucoup. T'es vraiment très mignonne. Et en fait, ce t'es vraiment très mignonne lancinant qui va durer pendant des années va combler un vide. Va combler un vide et je deviens addict à ce vide parce que j'ai juste besoin que des hommes m'aiment, en fait. Donc je continue à monter dans cette chambre, à me rappeler de rien, à me dire que je vais mourir. Et à ouvrir la porte à chaque fois et à me dire, derrière, il y a quand même Disneyland. Et pour Disneyland, on est d'accord, on est capable de beaucoup de choses. Donc, je continue sans du tout me rendre compte de ce que je suis en train de vivre, sans du tout me rendre compte de ce que je suis en train de subir, de la manipulation, de l'emprise qui est faite sur moi. Je me dis juste que j'ai une famille, que c'est déjà vachement sympa de leur part, et que s'il faut réveiller un grand-père pour aller nourrir le chat, c'est quand même... pas grand-chose de demander. Et puis un jour, j'ai 12 ans et je ressens du plaisir d'un mec franchement chum et très vieux. Et je me dis, mais il y a un truc qui n'est pas normal. Moi, j'imaginais que ma première fois, ce soit sur du Camaro ou les L5. Je me dis, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et puis, je sors de cette chambre. Pour la première fois de ma vie, j'ai pas peur qu'il me tue comme il me l'a tant dit, j'ai pas peur de perdre ma famille. Ce n'est pas possible, je viens de comprendre. C'est impossible que je ressente du plaisir pour cet homme. Donc je sors de la chambre, ma grand-mère sort de sa chambre parce qu'il faisait chambre à part, et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, je me dis « Ok, est-ce que je perds ma famille ? Ou est-ce que je dis rien ?» Je regarde ma grand-mère que j'aime du plus profondément de mon cœur, et je lui dis, papy, il nous fait des choses pas claires, enfin, à Julie, j'en sais rien, mais moi, il y a quelque chose qui va pas, il nous touche les fesses, et je me prends une claque. De la femme que j'aime le plus au monde, après ma mère, je me dis, tu vois, t'as parlé, tu vas perdre toute ta famille. Donc là, à ce moment-là, je dis que je suis désolée, que j'ai raconté n'importe quoi, que je sais pas ce qui me prend, que je viens juste d'aller réveiller mon grand-père. Et je me tais pendant 15 ans, parce que du coup, il ne me reste plus que ma mère. Donc on repart à la case départ, je suis déjà méga dégoûtée. Et j'ai très peur de la perdre, j'ai très peur qu'elle ne me croie pas, j'ai très peur qu'elle me dise que je fous la merde, j'ai très peur qu'elle me dise que je suis folle. Donc je ne dis rien. Et plus je dis rien, plus je suis malheureuse, plus j'ai besoin de contrôler les choses. Donc je passe l'aspirateur chez moi 3 fois par jour. J'aligne tout. J'essaie d'être parfaite sur ma façon de manger, sur ma façon de faire du sport, sur ma façon d'être avec des amis. Je suis partie de ces gens qui te disent « j'amène le dessert » et qui font 9 gâteaux. Donc là, je commence à me dire « on va voir que je deviens folle. » 9 gâteaux, on est 8, on va voir qu'il y a un problème. Vraiment. Donc voilà, mais j'essaie de continuer de cacher la chose et de ne rien dire et de ne rien dire et de ne rien dire, et ça me demande une énergie folle, mais je me dis que c'est quand même mieux quand on dit rien, puisque ça fait 15 ans que je n'ai perdu plus personne. Et puis un jour, mon mec rentre, déplace la télécommande qui devait être alignée avec la table, qui devait être alignée avec le tapis, qui devait être alignée avec les rainures du plancher. Une belle vie en somme. Et je pète un plomb. Et il me dit, mais ça va pas, t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est quelqu'un de très bienveillant, mais là, il en peut plus de cette folie-là que je lui fais vivre. Et je lui dis, j'ai été violée par mon grand-père pendant 10 ans, et ça sort tout seul. Et là, je me dis, je vais me prendre une claque, et je vais perdre mon mec. Donc je me dis, mais qu'est-ce que t'as dit ? Pourquoi tu l'as dit ? Et en même temps, je me dis, bon, là, j'ai 26 ans, je ne vais peut-être pas y passer ma vie à rien dire, donc ce n'est peut-être pas pour rien que je l'ai dit. Il me regarde, il me dit, c'est horrible ce qui t'est arrivé, il faut absolument que tu ailles en parler à quelqu'un. Et c'est horrible ce qui t'est arrivé, ce jour-là, je perds 300 kilos de tristesse. Je perds 300 kilos de tristesse, il m'en reste un bon 600 quand même, hein. Je ne vous le cache pas, mais la thérapie est assez magique pour ça. Et en même temps, je suis pétrie de peur. Je me dis que je l'ai dit, que ça se trouve, il est d'accord avec moi aujourd'hui, mais que demain, il va me dire que je suis folle. Enfin, j'ai très, très peur de l'avoir dit. Et j'ai très envie de me jeter sous un train. Et j'habite à 70 mètres d'une gare. Donc là, je me dis, bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour me décider. Il ne faut surtout pas que je me décide tout de suite, parce que c'est vraiment un projet qui peut se faire dans très, très peu de temps, quoi. Et donc, et je me dis, bon, ben, tant pis, je vais dans un... Je peux pas là me suicider, c'est pas possible. Et donc je vais taper à la porte d'un centre médico-psy où il y a des psychologues gratuits, en me disant que je suis folle, que je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire, que je fais des histoires à tout le monde, que j'ai envie que tout le monde connaisse mon histoire et que vraiment je suis tarée. Et je rentre dans cet endroit et je tombe sur une infirmière psychiatrique. Je lui explique la chose et elle me croit. Deuxième fois en 24 heures qu'on me croit. Donc je repère un petit 100 kilos. Alors on n'a pas perdu toute la tonne, c'est très très long, mais quand même, je perds encore du poids de tout ça. Et en fait, au fil du temps, on me croit et je vais chercher pourquoi je me suis tue. Je comprends que ce n'est pas de ma faute, je comprends que j'ai été sous emprise, je comprends qu'on m'a manipulée, je comprends que... un enfant, si on lui dit « je t'aime et fais ce que je te demande », ben, un enfant c'est très loyal, donc j'ai juste été un enfant. C'est-à-dire que j'ai été loyale et j'ai eu envie d'être très aimée parce que ça fait partie de ce qui fait qu'un enfant reste vivant, l'amour. Donc j'ai juste voulu rester vivante en fait. Et voilà. Et puis quand même, secrètement, plus j'avance, moins j'aligne le tapis avec la télécommande, avec... Plus je me délaisse des choses, plus je me dis, mais attends, à 3-4 ans, ton rêve, c'était quoi? Ton rêve, c'était d'être comédienne. Ce serait peut-être une bonne idée de repartir à ce que tu rêvais quand tu avais encore l'insouciance de rêver. Et du coup, je me dis, bon, et si j'étais comédienne? Il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne peux pas rentrer dans une boulangerie et demander du pain. Donc, projet galère. Vraiment projet galère. Mais voilà, et à force de thérapie, je commence à réussir à aller acheter du pain. J'arrive à aller chez une copine à 100 km de voiture, ce que je ne pouvais pas faire. Je commence à reprendre ma vie en main et à être capable de vivre. Et mon psy me dit... Je lui dis, j'ai envie de partir à Paris, j'ai envie d'être humoriste, j'ai envie de faire un spectacle. Et il me dit, ah oui, mais complètement. Je lui dis, alors mec, je crois que tu ne te rends pas compte que je compte mes calories 70 fois par jour, que je me pèse 20 fois par jour et qu'hier je me suis lavé à la Javel. Donc ton complètement, pourquoi pas? Mais j'ai quand même un petit peu peur, quoi, tu vois. Et donc je le prends pour un fou, je me dis que c'est lui qui a besoin d'une analyse. Clairement, mais j'ai envie de savoir s'il a besoin d'une analyse ou si la sienne est bonne. Donc je pars à Paris, je fais une audition pour une école et je suis prise. Et pas de bol. Il va falloir se soigner et vite. Donc bref, je continue de la thérapie. Et je finis par réussir à être sur scène, réussir à avoir un spectacle dans lequel je parle de viol. Et je vous assure, c'est assez marrant en plus. Bref, tout ça pour vous dire que si un jour, quelqu'un, que ce soit dans votre enfance ou dans votre âge adulte, vous a écrabouillé comme une petite crotte, revenez à ce que vous vouliez être avant et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas détruit. Voilà. Bref, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et je vous souhaite de faire des cupcakes, de devenir humoriste et de faire 100 km de voiture si un jour quelqu'un vous a convaincu que vous ne pouviez pas. Extrêmement belle soirée à vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.